Merci à vous, merci à Sylvie pour cette invitation. Alors, ma présentation, en fait, est une forme de projet. J'ouvre la porte à des propositions qui vont venir dans la continuité, en fait, des deux premières communications. Et j'espère attirer votre attention. Donc, la question que je pose et que je vous pose, c'est un inventaire des de l'hydrodiversité des paysages fluviaux. Pourquoi faire ? Et cette question, je me la suis posée à moi-même pour commencer, en me disant que finalement, il y avait une reconnaissance aujourd'hui assez nette, assez évidente pour la société, de la biodiversité, mais aussi d'une autre composante du milieu naturel qu'on appelle la géodiversité. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être intéressant de creuser en quoi il serait important de lancer un chantier d'inventaire autour de cette question de la diversité des paysages fluviaux, que j'ai nommé hydrodiversité. Alors c'est parti d'un constat en fait. Le constat déjà d'un acquis scientifique, mais qui est peut-être peu partagé en dehors des communautés scientifiques, qui est celui qu'il y a une co-construction ancienne en fait des vallées. Et là j'ai choisi deux exemples. Le premier à gauche, c'est celui d'un doctorat soutenu en 2018 par Axel Beauchamp à l'université de Caen, qui a travaillé sur les petites rivières de Normandie et qui nous montre en fait qu'il y a une co-construction de ces paysages de rivières très tôt, dès le néolithique. Et là, le bloc diagramme qui est présenté nous illustre la situation au Haut Moyen-Âge. Donc, co-construction établie. Deuxième exemple, c'est celui d'un étudiant d'Angers, Guillaume Paysan, qui travaille lui aussi sur des petites rivières, mais cette fois-ci de l'Anjou, affluente de la Loire, et qui nous montre aussi une co-construction évidente et accélérée durant la seconde moitié du XXe siècle. Donc, dans une partie de la communauté scientifique, c'est acquis. Pas dans toutes. En fait, on se rend compte que dans un certain nombre de manuels, et d'ailleurs j'ai vu ce type de figure dans les documents pédagogiques que Bruno nous a montré juste avant, eh bien, les rivières, les paysages fluviaux sont représentés de façon complètement déshumanisée. Et là, les spécialistes de l'enseignement de l'hydrologie vont reconnaître deux figures assez emblématiques des enseignants. C'est le système et l'hydrosystème fluvial, et puis à côté un exemple de paysages dits de plaines alluviales avec méandres. Et vous voyez que bah, des hommes, il n'y en a pas. Et alors le problème, selon moi, mais je pense également selon vous, c'est que le paysage, il n'est pas désincarné des sociétés. Et que ça pose problème de différents points de vue. Ces archétypes que l'on vient de voir, eh ben, en fait, après, ils sont projetés dans des situations que l'on dit de restauration ou de renaturation. Et j'ai choisi cette photo là, c'est l'exemple d'une petite rivière qui vient d'être renaturée entre guillemets à côté de mon lieu de travail à Angers. C'est aussi le risque d'une uniformisation des paysages hein, avec ces archétypes. Et puis enfin, c'est la multiplication, vous le vivez peut-être autour de vous, d'un certain nombre de controverses dans ce qui fait patrimoine entre nature et culture. Alors, pourtant, il y a pas mal d'expériences éclairantes. Hein. J'en ai cité deux exemples tout à l'heure et je voudrais en citer deux nouvelles autour de thèses récentes qui sont soutenues notamment autour des questions de paysage et en particulier en géographie. Alors, sur les grands hydrosystèmes, c'est pas exhaustif, hein, mais je pense à des thèses qui ont fait référence, celle de Mélodie David en 2016 ou de Sandrine Lescure qui ont travaillé sur la Garonne, celle d'Anna Helvessière en 2008 qui a travaillé sur le Cher. Sur des plus petits hydrosystèmes, Marion Jugy en 2018 sur l'Île-de-France, Axel Beauchamp, je vous en ai parlé, en 2018 sur les petits cours d'eau de Normandie, ou bien Guillaume Paysan qui va soutenir là en 2019 sur des petites rivières des Pays de la Loire, ou bien encore Johan Blampier qui va soutenir sur des petits cours d'eau des Hautes-Pyrénées. Donc beaucoup de travaux scientifiques, des projets collectifs aussi, mais il me semble que cette connaissance, elle est trop fractionnée. Alors, illustration non exhaustive de projets collectifs. Je pense notamment, alors veuillez excuser des oublis importants pour vous hein, et que je n'aurais pas eu à ma connaissance. Je pense notamment dans ces réseaux, au réseau Loire et Garonne, dans lequel travaille énormément Virginie Serna, autour des questions de territoire de l'eau, de rivières aménagées, et on va peut-être en parler après. Je pense au projet aussi porté en partie par Philippe Valette d'Observatoire des paysages de la Garonne. Et puis un autre collectif que j'ai découvert très récemment, qui est celui de la route des crues de la Vézère, notamment portée par Jamie Linton, qui enseigne à l'Université de Limoges. Donc vous le voyez, un certain nombre de projets collectifs et de communications collectives autour de ces paysages de l'eau, mais ça ne me semble pas suffisant et je pense qu'on peut être plus ambitieux. Donc le projet peu abouti, bien sûr, hein, on est au stade de l'esquisse, et sans esquisse d'ailleurs, que je vous propose, eh bien, c'est d'aborder ces hydrosystèmes comme des paysages, mais des paysages construits dans une épaisseur temporelle et donc fonctionnant selon des trajectoires dynamiques. Alors, le paysage fluvial, je l'entends ici comme synonyme ou presque d'autres concepts. Je note en particulier celui d'anthroposystème, celui d'espace hybride, mais aussi celui de nature artefact ou d'hydrosystème, hydro-AU, proposé assez récemment par Laurent Lespèze et son équipe. Et pour essayer de vous convaincre, en fait, j'ai choisi quelques exemples de cette hydrodiversité. Ils ne sont pas exhaustifs, encore une fois. Hein. C'est des choses sur lesquelles j'ai pu travailler ou que j'ai pu observer récemment. Le premier des exemples qui me semble vraiment extrêmement intéressant, c'est celui de l'eau dans les jardins et des rivières des jardins. Et là, j'ai choisi un motif particulièrement patrimonialisé, qui est celui du motif baroque, avec l'exemple du château et du parc de Vaulx-Vicomte, créé par le nôtre vers 1656. Ou quand on regarde, quand on pose en fait le jardin dans son assiette géographique et géomorphologique, eh bien on constate que sans rivière encaissée et sans confluence, le jardin n'existerait pas. C'est-à-dire qu'on est complètement dans cette idée de l'hydrodiversité. Mais qui n'est jamais présentée comme telle en fait. Autre exemple que j'ai choisi, en fait je l'ai choisi parce que j'y ai travaillé avec des étudiants au printemps dernier. Et c'est un site qui a été étudié en fait par un ancien élève de votre école qui s'appelle Thomas Jourdan, certains d'entre eux le connaissent peut-être, et qui a fait son travail de fin d'études sur cette petite vallée. C'est la vallée du Misengrin. Il s'agit d'une petite rivière armoricaine en fait, du nord-est du département du Maine-et-Loire, qui en fait a connu une longue histoire d'usage et surtout d'extraction et d'exploitation de ressources naturelles. Donc elle est connue en tant que site minier. Elle se situe dans un synclinal que vous voyez sur le deuxième document. C'est la partie verte et bleue, en fait. C'est une vallée synclinale pour les amateurs de géomorphologie fluviale. Donc dans laquelle on a depuis très longtemps des usages d'exploitation et d'extraction, à la fois extraction de fer et d'ardoise, mais aussi usage de l'eau pour l'hydraulique et apparition de moulins. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que la diversité, la durée de ces usages, eh bien, n'a pas nuit à la caractérisation d'espaces naturels dans cette vallée. Et il y a un lien très fort finalement entre les deux, puisqu'il y a des SNIEFs qui ont été identifiés et que cette vallée est aujourd'hui un espace naturel sensible du département du Maine-et-Loire. Quelques illustrations pour vous montrer la diversité. Alors, il y a des trucs qui sont complètement de travers, c'est bizarre. De ces paysages à différentes époques et aussi de ces usages. Hein. Je noterai notamment cette vallée ferrugineuse en fait, parce qu'elle circule sur des terrains miniers et ferrugineux qui donnent une couleur étonnante, des usages de loisirs, mais aussi des anciens moulins liés à la présence et qui donc sont associés à la présence d'étangs. Une grande diversité, donc hydrodiversité autour de cette vallée. Autre site classique, mais tout aussi intéressant, ce sont les sites urbains. Et là, je prends l'exemple de Poitiers, étudié récemment par Jean Soumagne et Alain Giret, qui nous montre ce très beau site défensif de confluence entre deux rivières, extrêmement ancien. Et puis, dernier exemple que j'ai choisi, en fait, c'est un site sur lequel je me suis rendue la semaine dernière avec des étudiants, qui est aussi un très bel exemple d'hydrodiversité. C'est celui d'un petit fleuve côtier, qui est situé entre, on le voit sur la carte de localisation en haut à gauche, entre les Sables d'Olonne au nord et La Rochelle au sud, un petit fleuve vendéen, donc côtier, sur lequel existent, depuis une période très ancienne, des marais à poissons qui donnent, vous voyez, ces paysages fluviaux assez exceptionnels, qui d'ailleurs a démarré une procédure de labellisation grand site. Alors, tous ces exemples me permettre d'arriver à quelques pistes que je voudrais vous suggérer. La première, eh bien, c'est de se dire que comme pour l'inventaire général du patrimoine culturel, eh bien, on pourrait très bien essayer de recenser, étudier et puis aussi faire connaître les éléments du patrimoine qui représentent un intérêt. Et par là même, je vois l'idée de qualifier et donner à connaître, l'idée aussi de sensibiliser à la diversité de ces paysages et puis enfin d'aider à la décision. Au-delà de ça, si je développe un tout petit peu, en fait, c'est le principe que l'hydrodiversité est, eh bien, comme un bien commun, est un objet intégrateur dont on peut faire un espace laboratoire, mais aussi un espace de concertation. L'idée aussi d'évaluer les services hydrosystémiques qui sont rendus. Alors, vous allez me dire, ça, c'est déjà en partie fait, mais c'est avec un regard qui est très biaisé et qui n'est pas aussi global que l'entend la Convention européenne du paysage. C'est aussi l'idée de venir en appui à des projets de transformation des paysages fluviaux dans une logique de projet. Donc, on ne reste pas dans l'observation, on va vers le projet, vers l'avenir. Et puis enfin, c'est s'éloigner, alors ça c'est une idée que j'emprunte à Jean-Michel Carozza, s'éloigner du mythe de désaménagement de la nature qui serait enfoui sous l'anthropisation avec un état de référence, donc sous cette anthropisation. Réfléchir à une intercomposition. Et dernière idée que je voulais vous soumettre et qui est proposée par Johan Blanpied dans sa thèse à venir, eh bien c'est celle d'envisager les formes fluviales, par exemple les crues, comme des figures à patrimonialiser. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, en fait, dans le principe, si on prend les crues, de la mémoire du risque. Et j'en ai terminé. Merci à vous.